Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Henri Saint-Gore, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un éclairage sur l'image de la femme dans l'œuvre de Saint-Gore. Vous avez intitulé cette émission ainsi. Je précise à nos auditeurs que vous êtes ambassadeur honoraire, que vous êtes également président du Centre international francophone d'échange et de réflexion. Et puis, vous portez le nom Saint-Gore puisque vous êtes le neveu. Le neveu de Léopold Sédar Senghor. Alors, nous allons traiter des femmes, le rapport qu'entretenait Senghor avec les femmes, que ce soit dans l'imaginaire, dans ses poèmes, les femmes de sa vie également. Un sujet qui vous intéressait, qui justement fait que vous êtes avec nous ici dans les locaux de Canal Académie. Alors, quel était le rapport avec les femmes qu'entretenait Léopold Sédar Senghor?
Écoutez, ce thème de la femme dans l'œuvre de Senghor, ce thème est un thème, d'abord la femme elle-même, c'est un thème traditionnel dans la poésie lyrique. De même que la mort, l'attachement à la terre natale. L'originalité de Saint-Gore, c'est d'avoir évoqué ce thème selon un éclairage double. N'oublions pas qu'il est le produit de deux cultures, la culture africaine et la culture française. Dans ce contexte, la femme a une présence très charnelle. Dans la poésie de l'action, livre conçu à la suite d'une interview accordée par Saint-Gore à l'écrivain tunisien Mohamed Aziza, Saint-Gore dit « Nous sommes tous, autour de la Méditerranée, des êtres sensuels, sans doute parce que sous-tendus par le sang noir. Nous ne séparons pas la matière de l'esprit, le corps de l'âme. C'est parce que nous sommes des êtres sensuels que nous sommes en même temps des êtres spirituels. » Donc la femme est souvent désignée, chez Saint-Gore, par des métaphores empruntées à la nature. Elle érotise les paysages, clairière de son sang, île d'amour, ainsi la femme africaine est étroitement liée à la nature. La femme africaine est celle qui lui rappelle son origine, son identité. Sous le regard de la femme, il sent monter en lui l'Afrique. L'amour occidental, par contre, dans sa vision, celle de Saint-Gore, semble dépourvu de sensualité. Dans son poème « New York », il évoque l'image des grandes filles d'or aux jambes longues, pas un sein maternel, des jambes de nylon. Fiancée, amante, mère, la femme est pour le poète peut-être plus une allégorie qu'un personnage précis. Allégorie de l'apaisement, de la douceur,
de la mer,
de la mer, elle représente l'énigme, le mystère, la forme achevée de la beauté, inspiratrice de toute vie et de toute poésie, elle est la muse. La féminité de la mer, de l'amante, est souvent confondue avec la nature dispensatrice de vie. Le poète lui-même se compare à la femme angésine, comme elle, il lui faut enfanter. Enfin, la distance, l'éloignement dans l'espace ou le temps transfigure parfois la femme en figure mythique. C'est le cas de l'élégie pour la reine de Saba où il chante mieux qu'il n'avait fait dans Femme noire ce que représente pour lui la femme noire. À travers cette femme, il a voulu chanter la dialectique négro-sémitique.
Dans Femme noire ?
La femme noire. Donc, quand il parle de la reine de Saba, qui est une femme noire, effectivement, on a dit qu'elle a voulu chanter en cette femme la dialectique négro-sémitique. Moïse, dit Saint-Gore, avait épousé une Kouchite, une négresse, et précise la Bible, Myriam, la sœur de Moïse, se fâcha. Dieu lui envoya alors la lèpre, et Myriam devint blanche comme la lèpre. Salomon n'épousa pas la reine de Saba, mais il fut lié d'amour avec elle. Par ce dernier exemple, Saint-Gore a voulu que la reine de Saba symbolise l'Afrique noire, l'amour et la poésie. Les images témoignent de son obsession d'abolir les frontières raciales. De cette façon, on comprendra mieux ces vers surprenants. J'ai vu le soleil se coucher dans les yeux d'une négresse blonde. Rien n'épuise le mystère féminin et surtout pas sa couleur de peau. Cette vision poétique correspond bien à la vision saint-gorienne du métissage. Saint-Gor n'était-il pas lui-même successivement l'époux d'une femme à peau noire et d'une à peau blanche? Mais la femme pour Saint-Gor est aussi évasion. Elle est plus qu'humaine, bien plus, il la tire vers le registre animal, tantôt vers le registre végétal, tantôt vers la divinité elle-même.
Et finalement, la femme est un support pour pouvoir aborder plein de sujets différents.
Alors, elle peut incarner de temps en temps, elle incarne l'arbre. Alors, je vais vous donner quelques exemples.
Oui.
Alors, il parle de la femme animale. Voici la femme fauve. Ah, que tu me foudroies de tes éclairs jumeaux. Formidable douceur de leur rugite. Délice inexorable de leurs griffes. Voici la femme plante. Ma corolle est ouverte. Mon pusque frère, Pompidou. Mon beau prince, abeille. Et maintenant, voici la divinité. Je contemplerai les choses éternelles dans l'altitude de tes yeux. Elle est cette porte qui ouvre sur l'infini. Femme sésame, écrit-il. La femme arrache le poète aux contingences du quotidien, aux préoccupations ancillaires, aux affres du pouvoir. Elle humanise l'univers parce que comme les divinités des civilisations archaïques, elle habite l'aube et les brouillards, les sources et l'ombre, et que les éléments sont confusément féminins, ainsi que le note délicatement l'écrivain François de Saint-Chéron. Nous pouvons évidemment poursuivre cet entretien en parlant du monde féminin de son enfance, et je dirais donc que sa mère, qui reconnaissait son fils à l'authenticité de son règne, celui de son cœur et de son lignage. D'autre part, les véritables initiatrices de sa poésie, puisqu'on parle du monde féminin de son enfance, les véritables initiatrices de sa poésie, ces trois grâces, comme il les appelait familièrement, les trois poétesses populaires de son village, Maron Niaï, Kouma Niaï et Siga Diouf, dont il recueillait et traduisait une centaine de leurs chants gymniques, sont des poèmes de lutte et chantés à trois voix. Ce sont ces trois muses qui lui ont révélé des caractères essentiels de la poésie négro-africaine.
Donc ces trois femmes qui ont beaucoup joué dans son enfance.
Joué un rôle important dans son enfance. Et d'autre part, Saint-Gor aussi, comme vous le devinez, rendait hommage à toutes les femmes qui l'ont entouré de leur affection dès son enfance. Voilà ce que je peux vous dire sur la conception qu'il avait de la femme. Évidemment, on parlera plus tard les femmes de sa vie. Nous en parlerons, mais si vous avez des questions à me poser.
Mais bien sûr, tout à fait, parce que Saint-Gor était quelqu'un de très discret sur ses sentiments. Comment on explique le fait qu'il érotise à ce point les femmes dans ses écrits?
Il érotise, c'est-à-dire il ne donne peut-être pas au sens érotique, si vous voulez, un sens péjoratif. Il ne peut pas dire qu'il les érotise. Il considère que la femme, pour lui, symbolise l'animal, symbolise le végétal et symbolise également la divinité. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il érotise. J'ai dit ici, la femme érotise le paysage, effectivement, parce qu'il parle effectivement de ces femmes.
Il a quand même un vocabulaire très sensuel quand il en parle.
Oui, il a parlé sensuel, mais comme il disait, la sensualité telle que nous la concevons en Afrique, ou telle qu'il la conçoit, lui personnellement, est différente de la sensualité telle qu'elle est connue en Occident, parce que sa sensualité pour lui est une confusion, si vous voulez, est une confusion de la matière et de l'esprit. Et ce sont les deux choses ensemble que l'on doit comprendre pour arriver à se rendre compte de ce qu'est la sensualité. Alors qu'il estimait qu'en Occident, on sépare la matière de l'esprit. Or, pour lui, le monde n'est compris que dans la mesure où matière et esprit sont confondus.
Donc vous voulez dire qu'en fait, nous, avec notre regard occidental, on n'a pas forcément la même vision.
La même vision. Il fait une distinction entre la vision occidentale de la sensualité et la vision africaine de la sensualité.
Alors, dans plusieurs de ses poèmes, les spécialistes disent que on peut pas mettre de nom particulier sur une femme, hein, mais parfois on peut deviner qu'il parle de plusieurs femmes à la fois dans un même poème.
Oui, oui.
C'est très particulier. C'est assez plaisant. Ça fait sourire.
Ce que je peux vous dire, c'est que vous abordez évidemment les femmes de sa vie. Je dois vous dire que Saint-Gor n'est pas seul. La femme n'est pas seulement pour Saint-Gor une amoureuse. Elle est à ses yeux l'être qui fait découvrir, par-delà les apparences, la culture dont elle émane et dont elle est porteuse. À travers les femmes, il appréhend les secrets du monde. Ses amitiés féminines n'ont jamais connu les barrières de la couleur. Il se trouve aussi à l'aise en compagnie d'une Asiatique que d'une Européenne ou d'une Africaine. Senghor aimait séduire, capter l'attention et rechercher la compagnie des femmes. Il éprouvait vivement le sentiment d'être mieux compris et apprécié des femmes que par des hommes. Dans l'opinion publique d'aujourd'hui, il est peu connu qu'il avait échangé des promesses de mariage avec Jacqueline Kaour.
Ah oui, effectivement.
Il avait rencontré plusieurs fois à une occasion, notamment des grandes vacances qu'il passait à Château-Gontier, chez le docteur Pierre Kaour, beau-père de son ami Georges Pompidou. C'est au début de l'été 45 qu'il rompit ses engagements. Il était venu au Sénégal afin de recueillir des éléments pour sa thèse de doctorat sur les formes linguistiques dans les langues sénégalaises. Cette décision de rupture, qui lui a été très pénible, nombre des membres de ma famille pourraient le confirmer. J'étais moi-même au Sénégal au moment où ça s'est produit et où il écrivait sa lettre de rupture. Avant cet épisode de sa vie, Senghor avait envisagé en 36, donc bien avant de rencontrer Jacqueline Kaour en 45, donc en 36, il avait envisagé d'épouser une Antillaise qui collaborait avec la revue du Monde Noir, mais les préjugés des Antillais de l'époque allaient contrarier ses projets, il ne s'est pas marié.
Les préjugés des Antillais, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que les Antillais, de la famille de cette jeune fille, considéraient que c'était pas normal que leur fille épouse un noir. Parce qu'il y avait toujours ce préjugé des Antilles à l'époque, qui avait des reproches adressés aux Africains en disant « c'est vous qui nous avez vendus », etc. Mais enfin, ils estimaient également qu'ils avaient une certaine supériorité par rapport aux Africains. Et donc, un bon père de famille qui avait élevé sa fille, qui avait fait des études, ne pouvait pas voir d'un bon œil Senghor, même si c'était agrégé, eh bien, épouser sa fille. Pour lui, il avait ses préjugés, et donc des préjugés tenaces, et donc il n'a pas permis que le mariage puisse se réaliser. Je peux donc dire que ces projets sont été contrariés. En 1946, donc Senghor épouse Gillette Eboué, la fille du gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Mais ce mariage de raison rencontrant de sérieuses difficultés, il divorça en 55 et se remaria en 57 avec Colette Hubert.
Avec Colette Hubert.
La Normande. Il s'autorisait ainsi à ne plus s'appuyer sur la conception trop étroite d'un mariage conditionné essentiellement par des considérations de caractère politique, voire racial. Parce que Senghor disait au départ, paraît-il, ça je ne peux pas le confirmer, mais je pense que c'est vraisemblable, qu'il ne voulait pas épouser une Européenne pour des raisons, parce qu'il appartenait à son peuple et que son peuple ne comprendrait pas qu'il puisse, justement, malgré toutes les souffrances qu'il a pu traverser, et que lui, donc, représentait ce peuple, le peuple ne comprendrait pas qu'il épouse, si vous voulez, la femme d'un ancien colonisateur. Mm-hmm. Et il le disait, et donc on
surtout pour le chantre de la négritude également.
Le chantre de la négritude. Mais il a beaucoup évolué, puisque finalement, ses considérations raciales et politiques, eh bien, n'ont pas cédé devant l'amour qu'il pouvait éprouver sa Normande, comme il l'appelait, Colette Hubert. Senghor reconnaît lui-même avoir eu des sentiments pour d'autres femmes, mais ce serait toujours tenu fidèlement à ses propres engagements. Mais en réalité, cette position de Senghor s'inscrit dans la vie privée d'une intimité sereine que nous devons apprendre à respecter.
Donc finalement, on connaît les deux femmes officielles,
oui.
Mais il y a eu avant
mais
ces deux femmes officielles.
Oui, avant les femmes officielles. Bien et on nous disait qu'évidemment, Senghor recherchait les femmes, il les appréciait beaucoup en tant que poète. Et donc, il a été quand même malgré tout, il est resté un homme fidèle, disait-on. Je ne peux pas le garantir parce que je n'étais pas présent, mais enfin, qu'il s'en tenait au lien qu'il avait noué avec son épouse Normande. Et donc, il avait des amitiés féminines, mais qu'il ne se passait peut-être rien de très particulier. C'est la rumeur, en tout cas, que l'on faisait circuler et qui continue à se décirculer.
Mais de par son charisme, c'est quelqu'un qui pouvait séduire, même malgré lui, en tout cas qui attirait les femmes naturellement.
Senghor était un homme qui avait beaucoup de charisme, une grosse ouverture d'esprit et une certaine sensibilité. Quand il disait qu'il était plus compris des femmes que des hommes, c'est vrai, Senghor allait de plein pied dans l'intimité des femmes, comme des hommes aussi. Mais les femmes étaient très sensibles à son charme, au fait que d'abord c'est un poète, qu'il avait son monde vide à lui. La femme pour lui était également un moyen d'évasion. et ceci lui donnait un certain charme, et qui fait donc que finalement beaucoup de femmes s'intéressaient à lui. Et Senghor n'a jamais éprouvé le besoin de repousser des femmes qui s'intéressaient à lui. Il a toujours été très ouvert. C'est peut-être une ouverture ambiguë, mais enfin il a été ouvert, et je ne peux rien en déduire, parce que je me dis que le restant, ça relève de la vie privée de quelqu'un. Mais enfin, je considère qu'il n'était pas insensible au charme des femmes.
Alors on marque une courte pause, monsieur l'ambassadeur honoraire Henri Senghor. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de l'ambassadeur honoraire Henri Senghor, neveu de Léopold Sédar Senghor. Avec vous donc, nous abordons le thème des femmes et Léopold Sédar Senghor. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons pouvoir parler de l'émancipation, voilà, de la vision d'émancipation des femmes que Léopold Sédar Senghor avait. Alors, il avait déclaré en 1977, lors d'un entretien avec un journaliste, Patrice Galbaud, « Nous avons mis 10 ans à évoquer un code qui établit l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous pensons que le problème est de donner la même culture à tous et à toutes, et non pas de favoriser une certaine partie de la population. De même, introduire la planification familiale, mais ne pas encourager l'avortement. Émanciper la femme, mais la femme n'est pas l'homme. »
Je m'arrêterai là. Parce que je pense que le restant que vous avez indiqué, le rôle complémentaire, je préfère ne pas avoir abordé ce thème.
Oui. Alors, abordons plus en détail ce thème de l'émancipation des femmes. À cette époque, c'est une vision admise de cette vision.
Oui, écoutez, Senghor était président de la République. Il a joué un rôle important au Sénégal, et sur le plan politique, sur le plan social. Et donc, au Sénégal, on peut dire qu'il y a eu une évidente émancipation féminine depuis l'indépendance. On constate au Sénégal, comme dans d'autres pays africains aussi, que les femmes jouent un rôle actif dans la vie politique. On trouve des femmes à des postes très importants sur le plan politique. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes...
Au Sénégal.
Au Sénégal. Dans d'autres pays africains, je pense aussi, les femmes ont joué un rôle très très important. On les trouve au gouvernement. Il y a pas eu encore de femmes premières. Si, il y a eu une femme qui a été première ministre au Sénégal, et elle paraissait très longtemps, mais elle a été première ministre, mais c'était pas avec Senghor. Senghor a lancé un mouvement de l'émancipation des femmes, de la participation au gouvernement, et de ses successeurs, que ce soit le président Diouf, que ce soit le président Ouad, ont complété un peu cette démarche de Senghor, consistant justement à donner à la femme un rôle de plus en plus important. Mais même si Senghor a contribué à l'émancipation des femmes, tout n'a pas été parfait, puisqu'on peut dire que certains problèmes subsistent, au premier rang desquels figurent la polygamie et l'excision. Je crois qu'actuellement, au Sénégal, on n'a pas supprimé la polygamie, mais enfin, il y a une option. On peut être monogame ou polygame, mais vous devez obligatoirement vous marier à la mairie. Et donc, quand vous allez voir l'officier d'état civil, il pose la question à la femme, ou à l'homme d'abord, est-ce que vous avez une option monogame? Est-ce que vous avez une option polygame? Et si l'homme répond, j'ai une option monogame, à ce moment-là, il ne peut plus prendre d'autres femmes parce qu'il a opté pour un statut de monogamique. On raconte une anecdote, mais je crois qu'elle est quand même vraie. Un couple se présente devant l'officier d'état civil, et l'officier d'état civil pose la question à l'homme, est-ce un mariage monogame ou polygame? Et l'homme dit allègrement, peut-être parce qu'il savait que tout le monde était là, que la cérémonie était prête, et que, au fond, cette femme n'oserait peut-être pas le contrer. Il a dit, j'opte pour un mariage polygame. Et cette femme se redresse en lui disant, je ne suis pas venu ici pour un mariage polygame, je suis venu pour un mariage monogame. Si ce n'est pas ainsi, le mariage n'aura pas lieu. Et l'homme a estimé que sa langue avait fourché et qu'il venait bien pour un mariage monogame.
Il avait essayé quand même.
Il avait essayé quand même. Cette polygamie, donc, existe. Et même actuellement, vous avez des jeunes qui ont fait des études, qui sont intégrés dans le milieu social sénégalais, je pense que c'est pas propre au Sénégal, peut-être dans d'autres pays c'est pareil, et qui ont parfois deux femmes, même parfois trois femmes.
Mais la parole de la femme, pour le coup, est l'égale de l'homme, puisque à partir du moment où elle refusait, cette future épouse.
Mais malgré tout, si vous voulez, il y a encore un travail à faire, parce que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas sur la même longueur d'onde. La femme n'a pas toujours le courage d'opter pour un mariage monogamique, soit dans la mesure où elle-même n'a peut-être pas de situation et qu'elle dépend matériellement de l'homme. Et donc, elle ferme les yeux sur le fait que le mari, également, a d'autres femmes. Mais je sais que nous sommes sur la bonne voie et qu'en fait, de plus en plus, la polygamie est considérée comme, dans certains pays africains, en tout cas, dans certains pays, elle est interdite. Je pense qu'en Guinée, elle est interdite. Ça ne veut pas dire que ce soit respecté, mais enfin, c'est interdit. Dans des pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, avec l'époque de Bourguiba, c'est également interdit. Mais je pense que nous ne sommes pas au stade de l'interdiction. Nous essayons de trouver des palliatifs qui permettent, en tout cas, de limiter la portée de la polygamie.
L'autre sujet que vous avez évoqué, c'était
l'excision. L'excision est une chose traditionnelle. Il y a donc des femmes exciseuses, sur des coutumes, la femme doit être excisée pour la rendre plus pure, etc. Il y a toute une théorie sur l'excision. De plus en plus également, il y a des réactions dans la société. Beaucoup de femmes maintenant protestent et même souvent, il arrivait que dans des régions, enfin disons à l'étranger, il y avait certaines femmes qui continuaient à exciser certains de leurs enfants, certaines de leurs filles, et même des filles universitaires. C'est arrivé, et que des filles les dénonçaient. J'ai une amie qui a écrit un livre sur l'excision. Une jeune fille qui est peule, et qui donc nous dénonce. Et il y a beaucoup de jeunes filles également qui dénoncent. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une protestation contre l'excision, mais ça existe encore.
Est-ce que Léopold Sédar Senghor s'est exprimé sur ce sujet?
Oui, il s'est expliqué. Il trouvait que c'était peut-être malheureux qu'on continue à faire de l'excision, mais qu'il fallait prendre des dispositions pour arriver à supprimer progressivement l'excision, et que la meilleure façon d'y arriver, c'était de répondre l'éducation, la formation, donc des femmes, les encourager, et il ne manquait pas l'occasion justement de pousser, de développer l'éducation des femmes.
C'était l'information, en fait.
L'information, et effectivement, il a essayé de lutter en particulier pour avoir la distinction entre les sexes dans la fonction publique. Il y a maintenant vous avez des femmes professeurs, des femmes qui sont magistrates, des directrices d'établissements publics, et d'autre part aussi, on a pu assister à des phénomènes que je trouve intéressants, notamment l'accès des femmes aux grandes écoles. Nous avons des femmes qui ont intégré justement l'école polytechnique et une autre femme qui a intégré l'école normale supérieure. Donc, des femmes arrivent à conquérir leur indépendance, à devenir l'égale de l'homme et également à considérer finalement que leurs rapports sont des rapports essentiellement complémentaires. Elles n'ont pas de supériorité à l'égard des hommes. Et ben, elles essaient de lutter pour faire comprendre à l'homme qu'il n'y a pas de supériorité. On est complémentaires. Mais ça, quand on est complémentaire, ça veut pas dire que la femme dépend de l'homme. Mais donc chacun
porte sa pierre à l'édifice.
Sa pierre angulaire à l'édification de l'édifice.
Puisque il faut le rappeler, on l'a dit dans notre première émission, mais on va peut-être le rappeler. Léopold Sédar Senghor était catholique dans un pays musulman, donc peut-être que dans la vision de la femme, lui, la vision qu'il pouvait avoir de l'égalité homme-femme n'était pas forcément la même dans le reste du pays.
Vous savez, Senghor était quand même, il savait que son père était polygame, sa mère est morte comme catholique, son père était également catholique, peut-être pas fervent catholique, mais enfin, par contre, ses sœurs, il avait des sœurs, Senghor, qui étaient mariées avec des musulmans et qui sont devenues musulmanes. Donc, Senghor se trouvait dans une situation, au fond, très claire, il savait très bien que c'était un pays qui était majorité musulmane, mais que il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce mouvement en faveur justement d'une certaine polygamie, mais que la meilleure façon de lutter contre cette tendance, c'était effectivement de pousser les femmes à s'émanciper, si vous voulez, du point de vue intellectuel, du point de vue culturel, et que finalement ce phénomène tomberait par lui-même. Ça prendrait peut-être du temps, mais l'important était que finalement le mouvement soit lancé.
Alors, je reprends une phrase de Léopold Sédar Senghor, donc je reprends ce qu'il a pu dire en 1977 avec Patrice Galbaud. Il dit « Nous pensons que le problème est de donner la même culture à tous et à toutes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fait? Est-ce que hommes et femmes peuvent avoir le même enseignement ?»
Oui, d'abord dans tous les lycées du Sénégal, bien avant même en France, c'était mixte. J'étais au lycée Van Vollenhoven, qui était donc devenu par suite le lycée Lamine Gueye. Eh bien, garçons et filles, nous étions ensemble. Il n'y avait pas de distinction. Voilà. Il y avait donc des filles africaines, des filles européennes. Et donc, l'enseignement, nous subissions le même enseignement. Il y avait évidemment moins de jeunes filles africaines que de garçons africains. Mais Senghor s'était vertu justement à encourager l'encouragement, à faire en sorte que ce soit des jeunes filles qui arrivent à s'imposer de par leur éducation, de par leur culture. Il me faisait remarquer à un moment donné à Senghor que les plus brillants élèves de la tête grecque, c'était pas des hommes, mais c'était des femmes musulmanes. Tu étudiais justement cette culture gréco-latine et certaines justement sont très connues au Sénégal pour être des femmes qui ont une vision élargie du monde. Et donc même si elles sont musulmanes, eh bien elles, ce sont des musulmanes, qui réussissent à concilier la modernité et leur tradition.
Alors, la vision d'émancipation des femmes de Senghor aujourd'hui, elle est totalement
est en bonne marche. Et j'ai dit que donc, et puis Senghor, quand il vous parle d'égalité, il vous dit que c'est pas une égalité mathématique, c'est une égalité complémentaire.
Eh bien, merci, monsieur l'ambassadeur honoraire Henri Senghor, de nous avoir accordé cette demi-heure sur la vision des femmes. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission téléchargeable gratuitement dans notre médiathèque. Merci à tous. Au revoir.